carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. Auguste Rodin disait « La sculpture est un art de plein air ». Et c'est ce précepte qu'a retenu Lydia Rambourg, historienne de l'art, correspondant de l'Institut, pour mettre en œuvre un désir de beaucoup d'amateurs et de professionnels de la sculpture, avoir de nouveaux lieux d'exposition, de nouveaux lieux de rencontre. Car Lydia Rambourg a choisi le plein air pour rassembler avec beaucoup d'intelligence artistique et un merveilleux sens de la mise en scène 41 œuvres de 41 sculpteurs vivants. La première biennale de sculpture à hier dans l'Essonne est incinée dans un cadre idyllique, la propriété Caillebotte qui avait appartenu au peintre Caillebotte au XIXe siècle. Les jardins de la propriété recèlent ainsi, le temps de la biennale jusqu'au 2 décembre 2007, 41 œuvres déposées là comme par enchantement et qui regardent malicieusement du haut de leur socle un environnement qui concède enfin à les accueillir. Et puis, le soir venu, les sculptures semblent dialoguer entre elles. Elles se racontent des histoires, leurs ombres se rejoignent, puis elles deviennent muettes lorsque la nuit d'hiver est tombée. Bonjour Lydia Rambourg.
Bonjour.
Merci de nous rendre visite à Canal Académie. Lydia Rambourg, pourquoi est-il si rare d'assister à des expositions de sculptures, cet art que vous considérez comme le plus humain et le plus éternel, même si on sait que Paris a été et est toujours un haut lieu de la sculpture. Dans l'histoire, il manque quand même des lieux de visibilité de la sculpture aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est cette visibilité de la sculpture qui a régressé ces dernières années parce que, d'abord, notre regard aussi porté sur l'œuvre d'art a changé, que nous vivons une époque où nous sommes envahis par l'image, par le son, mais aussi par l'image. Donc, nous parlons de sculpture. Et je crois qu'il y a tout un public qui ne peut pas, ou qui ne sait pas plutôt regarder la sculpture, parce que regarder une peinture, effectivement, c'est une image plane, et je pense qu'elle est beaucoup plus accessible, même quand vous regardez une peinture abstraite. Une sculpture, ce sont des volumes dans l'espace, et il y a là un dialogue qui va s'établir, et il faut vraiment rentrer dans cette sculpture. Elle demande du temps. Lire un livre demande du temps. Regarder un tableau, même si on le regarde mal, on pense le regarder, mais la vision se fait en quelques secondes. La sculpture, non, c'est beaucoup plus complexe, c'est plus exigeant. Donc, la sculpture, elle nous était familière, elle a toujours été familière à l'homme, depuis les temps ancestraux. Elle nous accompagne, elle nous habite. Je pense que l'exemple le plus extraordinaire, ce sont justement les portails des cathédrales. Parce que là, nous sommes confrontés vraiment à une longue histoire qui était d'abord celle de la Bible et qui était familière au peuple, aussi bien aux lettrés qu'aux analphabètes. Ils savaient ce qu'ils regardaient, ils savaient ce que voulaient dire ces scènes. Alors, il y avait naturellement une transmission, un héritage qui se transmettait justement. Le grand siècle, le 17e, le 18e, le 19e siècle, on sait, la sculpture est là, elle est très présente. Il y a les commandes royales, impériales, il y a après les commandes de la République, il y a des monuments qui sont commandés aux artistes. Il y a toute une histoire, je ne peux pas trop développer cela, mais le regard était habitué. Donc, les sculptures étaient présentes, elles étaient donc effectivement dans la vie, j'ai envie de dire. On les voyait, on vivait avec. Aujourd'hui, notre regard, il est infléchi encore une fois par une distance qui s'établit. La sculpture est moins visible, effectivement. Il y a eu, jusque dans les années 70-80, ce qu'on a appelé le 1%. Et ce 1% permettait aux sculpteurs de réaliser des œuvres qui étaient installées donc dans des villes, dans des municipalités ou dans des institutions. C'était des lycées, c'était des hôpitaux, c'était des mairies, des préfectures. Et ça permettait à toute une génération, d'ailleurs, qui est présente dans la biennale que j'ai organisée, et tous ces sculpteurs réalisaient donc des sculptures. Et je crois que c'est vraiment la fin de cette histoire de la sculpture visible, parce qu'après, on va rentrer dans un autre univers qui n'est plus celui de la sculpture, qui a aussi ses qualités, je ne conteste pas, mais qu'on ne peut pas montrer comme étant de la sculpture, c'est-à-dire qu'on va assister à des installations. C'est-à-dire que là, l'outil n'est plus le même, le matériau non plus, mais c'est surtout la relation que l'artiste a avec son matériau, ce face-à-face qu'il a avec son matériau. Ce sont d'abord beaucoup de choses qui sont éphémères, qui sont spontanées, qui sont faites pour être limitées dans le temps, qui sont déplacées. Donc là, il y a une question aussi de temps qui va beaucoup changer. Donc il y a le regard, il y a le temps. Et je crois qu'effectivement, la sculpture échappe vraiment à tout un public qui ne sait plus ce que c'est que la sculpture. D'où ma volonté, mais ma détermination, ça a été quelque chose mais d'irréductible en moi, c'est que quand j'ai découvert cette propriété Caillebotte que je ne connaissais pas ailleurs, j'y suis allée pour un vernissage il y a un an et demi, et quand j'ai découvert ce lieu exceptionnel, qui est un lieu en plus emblématique, très fort, puisque c'était la propriété où le peintre Caillebotte se rendait régulièrement pour peindre, ses tableaux offrent les sujets que nous pouvons maintenant vérifier en allant à Caillebotte, c'est-à-dire ces lierres qui passent le long du parc, ce sont ces grands parterres, les arbres centenaires, le potager au fond du parc, ces 11 hectares et demi de parcs arborés avec des fabriques qui nous donnent vraiment le lieu qui a inspiré un artiste qui était aussi un mécène. Confronté à cet espace qui me parle infiniment, je me dis voilà le lieu qui attend de la sculpture et pas autre chose. De la sculpture, c'est un dialogue avec l'espace, un dialogue avec l'environnement. Ce sont des liens très étroits qui se tissent entre des volumes, entre la lumière est très importante pour la sculpture, il ne faut jamais l'oublier. Elle joue sur les volumes, qu'ils soient figurés ou qu'ils soient abstraits. Donc, c'était tout un ensemble qui pouvait, là, prendre vraiment une réalité et prendre toute sa dimension pérenne et réelle.
Donc, vous avez trouvé ce lieu qui permet d'agencer comme ça, de façon assez idéale, l'environnement et l'œuvre. Ensuite, c'est posé, évidemment, pour vous, le choix des œuvres. Et j'ai l'impression que ce qui a présidé à ce choix, c'est de présenter la variété de la sculpture possible aujourd'hui, la variété des possibles, puisque vous avez choisi 41 sculpteurs qui sont vivants aujourd'hui, donc de donner une visibilité à la sculpture d'aujourd'hui et non pas à celle du passé. Et vous avez choisi aussi bien des sculptures du courant constructiviste ou simplement abstrait, du courant figuratif ou du moins des sculptures plus fidèles à la réalité. Et puis toutes sortes de modes de sculpture, le modelage, la taille directe, puis le travail du métal, de tous les nouveaux matériaux. C'était donc une volonté d'ouvrir comme ça largement.
Eh bien, comme je viens de l'expliquer un petit peu dans cette approche, parce que je pense qu'on va être amené à développer tout cela, la sculpture comme langage. Donc, redonner effectivement une visibilité à la sculpture qui me semble en avoir beaucoup perdu aujourd'hui. D'ailleurs, les sculpteurs en sont très conscients parce qu'ils ont beaucoup de mal à montrer leur œuvre. Il y a très peu de galeries qui se consacrent à la sculpture. Je voudrais évoquer rapidement cet extraordinaire salon qui a été créé et vraiment dirigé par Denis Chevalier pendant une vingtaine d'années, ce salon de la jeune sculpture qui permettait justement, là encore, entre 1948 et 1979, de montrer à tout un public ce qu'était la sculpture et de montrer aussi qu'il y avait une diversité des matériaux, une diversité des expressions. Donc, ce salon s'étant éteint au début des années 80 parce que Denis Chevalier meurt et que personne ne prend cette relève, et que là aussi, la vie change. Je veux dire qu'on s'aperçoit, sans faire de sociologie de l'art, que l'artiste est le même. Je veux dire que son urgence à exprimer un univers qui est en lui à partir d'un langage pérenne, que ce soit la peinture ou la sculpture, l'artiste subit quand même une réalité qui est celle de son temps. Et donc, ça devient assez difficile pour lui de montrer son travail. Moi, mon impatience, c'était de montrer que la sculpture était toujours aussi vivante, qu'elle n'avait jamais été aussi vivante, qu'il y avait actuellement 3 générations de sculpteurs en activité. Alors, c'était effectivement extrêmement excitant de rappeler que nous avions encore avec nous un de nos grands sculpteur qui est le patriarche, je l'appelle le patriarche, le doyen de la sculpture française, c'est Robert Couturier, qui est né en 1905 et qui est donc âgé de 102 ans, et qui est vraiment la mémoire de cette sculpture, de cette grande sculpture classique, puisqu'il a été l'élève et l'assistant de Mayol, et que donc, à travers Couturier, traversant tout le XXe siècle, c'est pratiquement toute la sculpture, la grande sculpture classique, et bien sûr la sculpture du XIXe siècle, qui arrive jusqu'à nous. Mais bien sûr, avec à chaque fois une adaptation et avec des sensibilités de sculpteurs de leur temps. Donc, ce n'est pas une sculpture qui est figée dans le 18e et qui nous transmet une image, de, par exemple, de Bouchardon ou de Pigalle. Vraiment, Couturier amène quelque chose de nouveau parce qu'il réfléchit sur les volumes, mais il est dans cet héritage direct. Donc, c'était extraordinaire de montrer que Couturier était là, toujours présent, qu'il avait eu énormément d'élèves, et parmi ces élèves, eh bien, certains sculpteurs que j'ai pu inviter, comme Claude Abeille
et Brigitte Terzieff.
Et puis Brigitte Terzieff, d'ailleurs tous deux académiciens, et continuer donc cette remontée dans le temps jusqu'à une nouvelle génération de sculpteurs. La sculpture exige quand même un métier parfaitement accompli, donc quand on a 45-50 ans, on peut dire qu'on est un jeune sculpteur, et c'est le cas. Donc la troisième génération que j'ai souhaité montrer présente des artistes qui sont dans cet héritage immédiat de la sculpture. Le plus jeune d'entre eux, c'est Quentin Garel, qui travaille le bois, donc on ne peut pas avoir un matériau plus traditionnel et plus ancestral aussi que le bois, qui a été travaillé dans toutes les civilisations. Et Quentin Garel a 32 ans et il a un métier absolument imparable, il a une virtuosité, mais au-delà de cette virtuosité, ça lui permet vraiment de réaliser et d'accoucher d'une œuvre qui est la sienne et qui est vraiment qui lui appartient en propre.
Est-ce que l'agencement de ses œuvres dans cette propriété Caillebotte a été une sorte de casse-tête ou au contraire, avez-vous aussi pu prendre du plaisir à faire dialoguer des œuvres et dans leur positionnement dans cette propriété, de découvrir des nouvelles filiations ou des nouveaux dialogues que vous n'aviez pas imaginés?
Alors les dialogues, j'ai envie de dire, ils se provoquent d'eux-mêmes. C'est vrai que bon, je connaissais bien le lieu, que j'ai travaillé comme un metteur en scène sur une feuille de papier en ayant les noms des sculpteurs et surtout en connaissant les sculptures que nous avions choisies ensemble et que j'allais donc installer. Et je dois dire que ça s'est fait assez facilement parce que les sculptures parlent, elles ont une présence. Et c'était ça, encore une fois, nous revenons à cet espace qui est tellement important. Je voudrais citer une phrase d'Henry Moore, donc ce grand sculpteur anglais qui était un sculpteur qui a beaucoup travaillé sur les formes, sur les volumes. Donc, ce sont des formes allusives. Ce n'est pas du tout abstrait, il n'a pas été jusqu'à l'abstraction, mais il y a toujours cette évocation de la forme féminine. Et Henry Moore disait « c'est notre corps qui nous donne une idée de l'espace et que la figure humaine reste la norme ». Ça veut dire que c'est un art profondément humain, que la sculpture, effectivement, nous la percevons, nous l'analysons et nous la vivons à travers notre corps, à travers la figure humaine, et j'emploie à bon escient ce terme, même si nous avons des sculpteurs qui se sont tournés vers les formes abstraites. C'est toujours par rapport, c'est une sorte de... Notre corps est comme un étalon, c'est par rapport vraiment à notre corps. Donc, la sculpture prend sa dimension dans l'espace, elle dialogue bien sûr avec ce qui l'entoure, et alors ce qui est extraordinaire, c'est que avec et surtout ça se produit, mais avec les sculptures peut-être plus abstraites, mais vous avez des volumes qui sont éminemment évocatrices des formes naturelles. Et d'ailleurs, c'est ce que revendiquent tous ces sculpteurs qui ont choisi l'abstraction, mais tout simplement parce que les volumes sécrètent eux-mêmes des formes qui sont celles que l'on peut trouver dans la nature. Donc, ce sont aussi bien les formes géologiques que les formes florales, que les sinuosités, par exemple, d'une lumière, d'un éclairage dans le ciel, et ce qui fait que tout prenait naturellement sa place. Alors, c'est vrai que j'ai positionné de façon à ce qu'il y ait peut-être un peu de symbole, mais c'était un symbole qui rappelait encore cette présence humaine et ce grand humanisme qui est celui qui caractérise tous ces sculpteurs qui sont vraiment empreints d'un humanisme. Alors, quand nous rentrons dans la propriété Caillebotte, il y a deux sculptures. Il y a une sculpture de Martha Pan, qui est une sculpture en inox. Donc là, c'était effectivement un matériau qui était plus contemporain. Donc, il y a toute une famille de sculpteurs qui a travaillé sur l'acier inoxydable, sur l'inox, sur l'acier corten. Et Martha Pan a une sculpture qui est éminemment géométrique et qui s'appelle d'ailleurs Porte, et qui était donc symboliquement cette porte que nous traversions pour rentrer dans le monde de la sculpture. Et à côté, j'ai mis une sculpture de José Subira Puig, qui est un peintre d'origine catalane, qui est arrivé à Paris dans la fin des années 50 et qui représente, qui travaille le bois. Ce sont des lamelles chevillées et qui constituent en quelque sorte comme des élytres d'un insecte. Alors tout ça se démultiplie, c'est une sculpture grandeur nature et ça représente un personnage, une évocation d'un veilleur en quelque sorte, d'un protecteur. Donc là aussi, il nous invite à rentrer et à pénétré dans ce monde de la sculpture. Alors, j'ai parlé de ces deux sculpteurs. J'espère que nous serons amenés à parler des autres sculpteurs. Je ne voudrais pas en oublier un, parce que ce serait très triste. D'abord, parce que tous sont exceptionnels, que ce sont tous donc des sculpteurs qui appartiennent à trois générations, qui sont tous en activité. Malheureusement, nous avons déploré la disparition de deux d'entre eux qui sont partis pendant l'installation de la Biennale et que j'ai bien évidemment gardé parce qu'ils avaient choisi la sculpture, qu'ils étaient très heureux de participer à ce grand événement qui rappelait, parce que beaucoup me l'ont dit, qui rappelait justement l'époque de Denis Chevalier et de la jeune sculpture. Alors ces deux sculpteurs, c'est Martine Boileau et c'est le sculpteur flamand Reinout. Toutes les nationalités pratiquement aussi représentées. C'est ça aussi qui était très intéressant, c'était de rappeler que Paris continue à être ce pôle d'attraction pour beaucoup d'artistes, que, en tous les cas, en ce qui concerne cette génération née entre 20 et 30, entre 1920 et 1930, ce sont tous des sculpteurs qui ont cherché à un moment ou à un autre à venir en France et à s'installer, à venir à Paris, parce qu'il y avait là aussi tout un héritage de la sculpture. C'était Rodin, c'était Bourdelle, c'était Mayol, qui sont donc les trois grandes figures emblématiques de la sculpture moderne, qui sont les héritiers de cette sculpture pérenne à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Donc, le langage de la sculpture, qui est un langage éminemment rattaché à un métier, et ce métier, c'est d'abord les outils. Et le premier outil, je pense que tout le monde le comprend, c'est la main. Et la sculpture, c'est d'abord le face-à-face entre un sculpteur, un artiste et un matériau. Et la main va être vraiment l'outil principal, l'outil complètement incarné qui va permettre justement que d'un bloc informe, d'une gangue, d'un matériau en fusion, puisse jaillir une œuvre qui est l'expression profonde d'un être humain.
Alors vous parliez un tout petit peu plus tôt du dialogue entre les œuvres et le lieu, entre les œuvres et l'environnement. Vous décriviez très bien cette entrée dans la propriété Caillebotte. Est-ce qu'il y a également des dialogues dans ce lieu? Est-ce que tout d'un coup, une sculpture ne rentre-t-elle pas en lien avec une autre d'une toute autre école et qui ne se rapprochait pas du premier coup d'œil?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai souhaité ne pas réunir et regrouper des sculptures qui étaient figuratives et puis dans un autre endroit du parc, mettre uniquement les sculptures abstraites. Ça, c'était absolument impensable parce qu'encore une fois, l'identité de la sculpture, c'est un langage. Donc, j'ai envie de dire qu'à la limite, ce n'est pas tant ce qui est représenté, encore que ce soit important. Le sculpteur qui fait le choix de rester fidèle à la figure humaine, comme il y en a quand même un certain nombre dans l'exposition, et qui veulent représenter la figure humaine, je pense que ça veut dire quelque chose de très fort et que ça correspond à une détermination profonde en eux. Mais c'est encore une fois un langage, et ce langage passe par un matériau. Donc, mettre une sculpture, mettons, de Dietrich Mohr, qui est en inox, à côté d'un bronze, ou tout du moins à proximité d'un bronze de Claude Abeille, par exemple, qui travaille le plâtre, qui est ensuite souvent fondu, puisque donc c'est un bronze que nous avons de Claude Abeille dans le parc. Et c'est un personnage qui disparaît sous une enveloppe qui est celle d'un manteau plissé. Eh bien, dans ces volumes qui jouent avec la lumière, qui est changeante, parce que là aussi, ça, c'est extraordinaire, parce que à n'importe quelle heure de la journée, la sculpture est vivante. Et elle prend effectivement toute sa réalité dans ces liens qu'elle tisse avec l'environnement. Et on a là un face-à-face tout à fait pérenne, vivant, qui est d'une grande expressivité. Et on oublie que finalement, l'une est un dialogue avec des formes, avec des volumes, avec des vides, avec des pleins dans lesquels travaille la lumière. Et puis, au contraire, la lumière qui glisse sur les plissements de ce manteau, de cette enveloppe d'abeilles. On est devant vraiment une vitalité qui prend une véritable dimension.
Alors, il y a également des œuvres qui sont à l'abri. Vous n'avez pas pu mettre toutes les œuvres en plein air. Certaines sont sous une verrière à l'orangerie.
Alors, ce n'est pas une verrière, c'est une orangerie. Donc, c'est un bâtiment tout à fait plein, avec des ouvertures en plein cintre sur le parc. Et là, ont pris place des sculptures qui étaient plus fragiles, parce qu'il y a un autre matériau qui nécessitait malheureusement, je dis malheureusement, enfin, qui était plus intime, qui était plus fragile, c'est la terre cuite. Donc là, il y a effectivement des sculptures dont la conservation exigeait qu'elles soient à l'abri. Et puis, il y a des sculptures plus petites, et alors là, c'était pour des questions de sécurité, parce que malheureusement, on ne pouvait pas les laisser dans le parc, qui est quand même très bien protégé, très surveillé. Mais enfin, tout de même, une petite sculpture posée sur un socle, c'était quand même de gros risques que nous prenions. Donc, il y a eu effectivement une partie de l'exposition qui a été présentée dans cette orangerie.
Mais dans ce lieu aussi, il y a quelque chose qui se passe entre les œuvres. Dans leur séparation, justement, du restant du parc, il y a ce petit endroit où on se retrouve entouré. Il y a le chien de Michel Charpentier. Il y a
Alors là, c'est en béton. Alors, c'est vrai que c'est une pièce qu'on aurait pu mettre à l'extérieur parce que le béton supporte tout à fait l'air et les intempéries.
Mais elle est petite, quand même.
Mais c'est une petite sculpture, une petite sculpture. Et alors, il y avait aussi des problèmes de sécurité, c'est-à-dire que c'est une sculpture qui présentait des formes qui pouvaient être pas dangereuses, mais enfin, avec lesquelles le public pouvait être tenté de jouer avec. Enfin, c'était une sculpture qu'il fallait mettre à l'intérieur.
Il y a aussi le spectre de Brigitte Tersieff.
Alors ça, c'est une très, très belle sculpture. Oui, là aussi, c'est une figure, une sorte d'entité, une sorte de conte d'Authière, et qui est une sculpture vraiment mémorielle et qui est en grès, et en terre crue et avec des inclusions de fer. Et là aussi, très fragile. Et malgré sa taille, ça aurait été merveilleux de la voir à l'extérieur, parce que ça aurait été une figure qui aurait appelé vraiment les spectateurs. Elle aurait été comme une sorte de vigie. Mais il y avait une fragilité qui nous imposait la sécurité et la protection de l'orangerie.
Lydia Rambourg, on a parlé de la variété des sculptures présentes à cette biennale. Effectivement, rassembler plusieurs générations de sculpteurs et au nombre de 41, cela permet aussi de mesurer l'éclosion des idées, des courants, les individualités se répondent. Et je trouve que malgré cette variété, il y a une cohérence de l'ensemble. Et je trouve que toutes les œuvres marquent d'une pierre l'histoire de la sculpture. Chaque sculpture a son indépendance et chaque sculpture a vraiment son identité et parle en elle-même.
Ça, c'est le métier. Je pense que ce sont tous des sculpteurs qui ont été formés donc dans des ateliers. Ils ont acquis un métier auprès de maîtres qui le tenaient aussi d'autres maîtres. C'est tout un héritage. Et en fait, c'est un art dont la pratique n'a quasiment pas évolué depuis des millénaires. Alors bien sûr, c'est adapté aux sensibilités et à des courants, je dirais esthétiques, qui sont propres à des écoles, qui sont propres à des siècles. Bon, la Renaissance, le grand âge classique, le 19e siècle, le romantisme, le réalisme. Mais encore une fois, c'est un métier qu'ils ont acquis. Alors, il y a plusieurs familles. J'évoquais tout à l'heure que les sculpteurs constituaient une famille. Ça, c'est très, très important. Et au point qu'ils sont tous à s'épauler. Je veux dire qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes pratiques. Un sculpteur, c'est de l'espace. C'est de l'espace aussi pour travailler. C'est de l'espace pour exposer, mais c'est de l'espace pour travailler. Il faut entreposer son œuvre au fur et à mesure qu'elle se réalise, qu'elle se constitue en tant qu'œuvre. Et donc, ce sont des ateliers de plus en plus grands. Les sculpteurs sont souvent obligés de quitter Paris pour aller en banlieue. Donc, c'est effectivement en banlieue que nous trouvons la plupart des ateliers de sculpteurs. Ils sont confrontés à une solitude. Ça, cette solitude, c'est celle du créateur. Avec le sculpteur, c'est encore autre chose parce que je crois que j'ai dû évoquer un petit peu plus tôt le problème du temps. C'est vrai que c'est le temps qui travaille avec la sculpture. Il faut du temps pour regarder une sculpture. Il faut du temps pour faire une sculpture. Il faut du temps aussi pour que l'œuvre sculptée prenne toute sa dimension et constitue à part entière une œuvre finie, telle que nous voyons maintenant, on peut dire l'œuvre de Rodin, l'œuvre de Bourdelle. Mais chaque sculpture arrivant dans son temps constitue un maillon, constitue, voyez, un maillon de cette chaîne. Alors, la sculpture, effectivement, c'est un matériau, ce sont des outils, c'est un face-à-face dans l'atelier. Le sculpteur est tenu, je dis bien tenu, mais c'est aussi le problème rencontré par le peintre. Mais encore une fois, les peintres ont leur façon de travailler. Vous avez des peintres, j'en connais, et on le sait aussi pour ceux qui se sont beaucoup confiés. Il y a des peintres qui peuvent travailler dans l'urgence, au moment d'une exposition, ou tout simplement parce qu'il y a des périodes où ils travaillent davantage, et puis il y a une espèce de ralentissement. La sculpture, c'est permanent, c'est-à-dire que le matériau vous appelle, et il faut être là. Alors, c'est ce face-à-face qui est très exigeant, très ingrat, très dur, très solitaire, dans des ateliers qui ne sont pas chauffés, parce que souvent, et puis il y a des problèmes de réalité quotidienne, tout simplement. Il y a, encore une fois, il faut trouver des espaces, et ces espaces ne sont inchauffables. Alors, ce n'est pas la petite histoire, mais cette petite histoire montre que les sculpteurs connaissent et vivent cela au quotidien. Et que donc, ça les fédère. C'est une grande, grande famille. Ils se respectent et il y a le respect du métier. Alors, ce métier, je veux quand même l'aborder rapidement parce que c'est le métier qui s'est transmis, j'ai envie de dire, qui remonte à l'homme des cavernes, l'homme de la préhistoire qui, à l'époque aurignacienne, prend un silex et va le tailler. Il le taille d'abord pour en faire un outil, mais un outil de chasse et de défense, pour se nourrir et pour se défendre et pour faire son vêtement. Mais ce silex, à un moment donné, on franchit, mais ça se passe sur des centaines d'années, mais on va franchir une étape où ce silex va devenir une œuvre d'art. Et le geste que fait l'homme de la préhistoire, c'est ce même geste qui est fait par Dodaigne, par exemple. Dodaigne qui travaille le granit, qui travaille la pierre de Swann, qui est une pierre donc des Ardennes. Ou Dodaigne, qui est aussi un de nos académiciens, donc travaille dans son atelier de Bondu. Eh bien, c'est le même geste. Alors maintenant, bien sûr, nous avons d'autres outils. Les sculpteurs ont des outils parce qu'il a des roues, il a des machines qui lui permettent de débiter son bloc. Mais à un moment donné, le même geste va se retrouver dans sa main. C'est-à-dire que le ciseau dans sa main va lui permettre de faire le même geste que le geste qui est fait par le sculpteur de la préhistoire. Alors, on va traverser comme ça les millénaires et toutes les civilisations, que ce soit les Assyriens, les Sumériens, les Cyclades, avec le travail du marbre. Enfin, il faut regarder ces petites idoles des Cyclades et vous regardez Prangusi des millénaires après et nous avons le même geste pour trouver cette même pureté du volume. Donc, quand je parle de mémoire, quand je parle de pérennité, quand je parle d'un métier qui est le même et qui se transmet, mais je dirais presque naturellement, c'est cela. Et la sculpture, c'est cela.
Même le métal, même le fer.
Alors, le métal aussi. Je voudrais terminer avec la pierre parce que j'ai évoqué tout à l'heure les façades des cathédrales. Et là aussi, c'est le même geste. Les tailleurs de pierre, les sculpteurs anonymes qui vont sculpter, qui vont faire des livres d'images, couvrir vraiment les portails, les chapiteaux, les tympans d'histoire et de récits historiés de la Bible. Eh bien, nous avons aujourd'hui des sculpteurs qui travaillent de la même façon. Alors, l'histoire du métal est aussi ancestrale parce qu'on fond depuis toujours. La fonte à la cire perdue, la fonte au sable était pratiquée aussi par les Égyptiens, par les Sumériens et aussi par d'autres civilisations, par les Chinois, je les ai pas cités, mais par la vieille civilisation chinoise. Donc, la route de la soie, enfin, je veux dire que là, on trouve des civilisations extrêmement riches où on s'aperçoit que les matériaux étaient déjà là, que les outils étaient déjà là. Alors, il y a tout de même des matériaux qui sont ceux de notre temps, parce que tout de même, il y a des techniques qui ont permis de travailler différemment. Alors, c'est vrai qu'il y a dans le métal, il y a l'inox, l'acier inoxydable, mais qui va être découpé, martelé, plié de la même façon, mais il y a un moment donné où il y a la soudure. Et la soudure qui va être pratiquée et surtout inaugurée par quelques grands sculpteurs au début du XXe siècle, que sont Gargallo et González, eh bien, bien évidemment que cette technique, elle est transmise à Picasso. Picasso va la transmettre à son tour. Et je veux dire que c'est toute cette histoire qui continue jusqu'à nos jours. Et c'était ça le propos vraiment aussi de la sculpture, c'est que le public, sans avoir de connaissances particulières, sans être initié, se rendait compte qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre une sculpture du Moyen-Âge, entre une sculpture de Claus Sluter qui sculpte ce puits de Moïse extraordinaire à la Chartreuse de Champmol, et puis aujourd'hui, eh bien, Dodaigne, d'autres sculpteurs qui ont travaillé soit le granit, soit la pierre, la terre. Alors, beaucoup de ces sculpteurs souhaitent que la sculpture connaisse cette pérennité. La pérennité, c'est le bronze, bien évidemment. À côté de la pierre et du granit, c'est le bronze qui permet à une sculpture vraiment de survivre. Alors, le bronze, c'est l'histoire des fonderies. Donc, il y a une grande histoire, une grande tradition de la fonderie depuis le 19e siècle. Et donc, ces fonderies, pour la plupart, sont encore en activité. Certaines ont été rachetées, mais vous avez une fonderie éminemment célèbre, c'est la fonderie Coubertin. Il y a la fonderie Susse, il y a Godard, il y en a beaucoup d'autres. Landowski. Et donc, les sculpteurs qui travaillent des matériaux périssables, qui sont amenés peut-être à disparaître, la terre, le plâtre, font fondre leurs sculptures.
Et une des choses aussi qui m'a frappée dans cette biennale de sculpture, c'est la place désormais incontestable qu'occupent les femmes dans le paysage de la sculpture. J'ai noté qu'il y a plus de 10 sculpteurs femmes présentes à cette biennale, alors même si ça n'a pas de sens évidemment de catégoriser les sculptures suivant si elles sont conçues par un homme ou par une femme, mais c'est quand même révélateur que les femmes ont réussi leur entrée maintenant depuis plusieurs décennies, mais leur entrée de plein pied maintenant dans l'univers de la sculpture.
Ça, c'est l'indépendance qui est acquise par l'être humain. Et la femme, c'est vrai, a acquis une totale liberté. Il y a des femmes peintres, mais femmes sculpteurs, c'est vrai que c'était quand même assez rare. Alors, il y a quand même une grande figure mythique, c'est celle de Camille Claudel. Plus près de nous, il y a une autre grande figure mythique, moins connue peut-être du grand public, voilà, parce que la sculpture est moins lisible, encore une fois, et que la sculpture est quand même assez confidentielle, reste confidentielle. C'est Germaine Richier, très grande dame de la sculpture. Et dans la Biennale, il y a plusieurs sculpteurs qui ont travaillé dans son atelier, et notamment deux femmes, justement. C'est Claude Marie qui présente un bronze qui représente une main. Et Claude Marie peut vraiment se retenir de Germaine Richier, car elle a vraiment été ce qu'on appelle le massier de Germaine Richier, donc la personne qui a été la plus proche d'elle, vraiment son assistante. Mais Germaine Richier avait un atelier très fréquenté, très ouvert aux élèves et à des artistes qui souhaitaient travailler la sculpture. Donc, il y a un sculpteur, justement Martine Boileau, qui a été conseillé par Germaine Richier. Mais il y a un sculpteur homme, Philippe Iquili, qui alors lui travaille le fer soudé et qui fait également des bronzes. Philippe Iquili, lui, a travaillé auprès de Germaine Richier alors qu'il était encore aux Beaux-Arts. Il finissait les Beaux-Arts. Il était avec César. Ça, c'est toute une génération aussi, avec Albert Ferraud, qui est un aussi de nos académiciens. Albert Ferraud, qui est vraiment le pionnier vraiment de l'acier inoxydable, de l'inox, et qui a décidé de rejeter toute la sculpture traditionnelle avec le modelage et la taille directe pour se consacrer à l'inox qu'il plie, qu'il martèle, qu'il découpe, qu'il soude. Et donc, tout ce petit groupe, César, Iquili, Ferraud, qui vont se consacrer au métal, eh bien, Iquili, lui, va travailler aux côtés de Germaine Richier, et c'est lui qui va réaliser les socles sur lesquels Germaine Richier posait ses sculptures. Donc, voyez, je veux dire que dès qu'on prend un nom dans cette biennale, c'est quelqu'un qui a une relation, j'ai envie de dire, immédiate avec un autre sculpteur, quelle que soit leur expression et leur choix esthétique, parce que chacun, forcément, fait un choix qui est en relation avec son monde intérieur et ce langage qu'il fait sien. à partir, encore une fois, d'un métier, à partir d'outils qu'il se donne, à partir d'un héritage qu'il fait sien, mais qui va lui permettre de se réaliser, lui, en tant que créateur complètement autonome et indépendant.
Canal Académie.
Il avait pour parrain le tsar Alexandre III et pour père le grand acteur Lucien Guitry. Sacha Guitry a conquis le public français sur scène et au grand écran. Canal Académie dédie une série d'émissions à Guitry, avec celui qu'il a connu personnellement, Alain Decaux, avec celui qui s'y réfère à toute occasion, Jean-Marie Rouard, avec celui qui admire son naturel, Félicien Marceau. Nous vous proposons de décrypter le cinéma de Sacha Guitry avec les commissaires de l'exposition de la Cinémathèque et d'analyser la figure de Napoléon dans ses œuvres. Canal Académie fête enfin Guitry et la comédie musicale Guitry et Yvonne Printemps. C'est sur Canal Académie en partenariat avec la Cinémathèque française.
Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, à vous penser.
Lydia Rambourg, pour avoir une vision très générale de cette Biennale 2007, est-ce qu'il est tout de même possible, malgré la variété des sculpteurs présents et la suffisance de chaque œuvre, quand même d'arriver à les classifier? Quel est votre regard sur les différentes grandes familles qui sont représentées à cette Biennale?
Les familles, elles sont données par les matériaux, parce que c'est vrai que c'est le matériau qui dicte un outil, un geste précis surtout. On n'attaque pas un bloc de marbre ou de granit comme on s'attaque à la plaque de métal, comme on ne soude pas non plus deux morceaux de ferraille. Le modelage, c'est encore autre chose, c'est une autre histoire. Modeler la terre, modeler la cire, qui ensuite sera fondue, gâcher le plâtre aussi sur une armature. Donc monter la sculpture à partir d'une armature de fer avec des matières végétales, de la filasse, et tout ça induit vraiment un geste précis. Alors il y a plusieurs familles, bien sûr, il y a les familles, la famille du bronze. Alors le bronze, au départ, ça peut être effectivement le modelage, la cire, et ça peut être aussi le plâtre. Des artistes qui ont travaillé le bronze, et en ce qui concerne ceux qui sont dans la Biennale, vous avez Robert Couturier, vous avez Jean Cardot. Alors, je parlais tout à l'heure des commandes. C'est vrai que Jean Cardot est un des grands sculpteurs académiciens, mais grand sculpteur qui permet au public d'avoir une visibilité de la sculpture, parce que ces grandes sculptures de Gaulle, de Churchill et récemment de J. Jefferson sont installées dans des endroits stratégiques à Paris et que c'est très visible. Mais le public ne sait pas toujours non plus quel est ce sculpteur. C'est comme les grands monuments, c'est comme les monuments aux morts qui étaient commandés à des grands sculpteurs au XIXe siècle. Ça se dilue un peu, vous voyez, dans une espèce d'anonymat, et c'est fort dommage. Alors, il y a Roselyne Granet qui travaille le plâtre, mais qui fond ses bronzes, qui les fait fondre. Il y a Claude Abeille, il y a donc Jean Rouland, Marie-Christine Rémery, Yvan Taillemer. Il y a des sculpteurs plus jeunes. Alors justement, cette jeune génération à laquelle j'ai souhaité rendre hommage et qui est très présente, c'est Nicolas Alquin, Pierre-Édouard, Agnès Braquemont. Daniel Ourdet, qui est un héritier de la sculpture expressionniste, et sa grande sculpture que vous avez vue, qui est une sorte d'écorché, c'est vraiment dans l'héritage de Ligier Richier, mais un écorché qui appartient à une danse macabre, je dirais, contemporaine, qui a l'air de fuir, de s'échapper d'un monde contemporain trop rude, trop terrifiant. Alors, il a ces lettres qui sont vissées sur le dos, aïe, aïe, et qui sont en rouge, et ce sont comme des flammes qui rentrent dans son épine dorsale et qui le font fuir, qui lui font franchir des montagnes. Donc, il est installé dans le parc, et justement, il court, il est dans cet espace, et il essaye d'échapper à de mauvais esprits qui sont ceux de notre contemporanéité, qui étouffe l'homme, justement.
Venons-en à présent à la famille du métal, comme l'acier inoxydable ou l'inox.
Alors l'inox, c'est Albert Ferrault, c'est Dietrich Mohr, c'est Vincent Badbeda. L'acier inoxydable, c'est Martha Pan, qui est reconnue internationalement, qui a de grandes commandes réalisées à travers le monde et qui est un de nos grands, grands sculpteurs. Il y a Robert Fachard, il y a Caroline Lee, il y a Jean-Pierre Rive.
Alors, il y a la famille de la pierre aussi.
La pierre, alors le marbre, nous avons Antoine Poncet aussi, un académicien héritier alors, de toute une famille de sculpteurs abstraits qui ont travaillé sur les volumes, mais des volumes allusifs ayant toujours des relations avec des éléments naturels, avec la flore, avec la faune. Antoine Poncet a été l'assistant de Harpe et Antoine Poncet s'est doté d'un langage qui lui est tout à fait personnel, avec des formes extrêmement pures, très élancées, assez sensuel. Antoine Poncet fait également fondre certaines de ses pièces. Un autre grand sculpteur d'origine italienne qui travaille l'acier Corten, c'est Francesco Marino di Teana.
Alors, autre famille de sculptures présentes à la Biennale, Lydia Rambourg, tous les artistes qui travaillent le marbre, le granit, la terre ou encore le grès.
Le granit, c'est Dodaigne, mais c'est aussi Denis Montfleur, son cadet, qui a reçu le premier grand prix de sculpture Pierre Cardin en 2003 à l'Académie des Beaux-Arts. Donc là, ça souligne également encore un héritage qui se perpétue. La terre et le grès, c'est Brigitte Terzieff, c'est Jean-Michel Solvès, mais c'est aussi Agnès Braquemont que j'ai citée pour le bronze, mais qui fait énormément de sculptures en terre crue, et qui est là dans un héritage immédiat de l'Égypte, mais avec, encore une fois, un univers qui est le sien, qui est celui d'une femme de son temps et qui porte un regard sur les relations de l'homme. Quand je dis de l'homme, c'est l'homme, la femme, hein, c'est l'être humain par rapport à l'environnement, mais elle isole des fragments de corps sur lesquels elle essaye de capter des correspondances sensibles et pourquoi et comment ça fonctionne. Donc, ce ne sont pas des recherches anatomiques. Quand elle prend un bras, quand elle prend, comme Pierre-Édouard d'ailleurs, ils sont un petit peu dans cette même recherche des formes, ces passages entre des volumes, mais qui débouchent sur une sensualité, qui débouchent sur un mystère finalement, le mystère du corps humain. C'est plutôt ça, le mystère du corps humain.
Et puis, il y a aussi Tetsuo Harada, qui est né au Japon et qui travaille à Paris désormais. Il a été attiré par la sculpture française.
Lui aussi a souhaité venir à Paris. Il travaille surtout le marbre, le granit, la pierre. Il fait des installations assez monumentales. Pour ce qui est du marbre, il y a un autre artiste d'origine étrangère, le péruvien Alberto Guzman, qui travaille le marbre d'une façon absolument extraordinaire pour faire apparaître la translucidité vraiment de la pellicule de marbre, donc faire jouer le grain vraiment du marbre.
Et puis, vous présentez également des sculpteurs qui travaillent le bois.
Alors, le bois qui est un matériau éminemment traditionnel aussi. Donc, Quentin Garel, ce jeune artiste de 32 ans, José Soubira Puig, il y a Axel Cassel également.
Nicolas Alquin,
qui travaille le bois, mais qui est aussi avec le bronze. Parvin Curie, qui travaille avec le bois d'autres matériaux, comme le bronze, également des résines, parce que beaucoup, si vous voulez, travaillent plusieurs matériaux, c'est-à-dire que les matériaux fragiles, qui peuvent être aussi des matériaux expérimentaux, se prêtent ensuite très bien au bronze. On peut tout fondre, finalement. On fond à partir d'une terre, on fond à partir d'une cire, à partir d'un plâtre. Ça les fait osciller d'un matériau à l'autre.
Et puis, Lydia Rambourg, d'autres sculpteurs travaillent le plâtre. Il y a bien sûr William Chataway et puis Gérard Lanvin.
Alors, William Chataway, qui est d'origine anglaise, qui arrive à Paris en 1950 et qui est un membre étranger de l'Académie des Beaux-Arts, s'attache à la terre cuite et au plâtre dont il tire des bronzes. Et c'est un petit bronze que j'ai montré justement à la Biennale. C'est un crâne, qui est un thème sur lequel il a beaucoup travaillé et qui part au départ de ses recherches sur un crâne de mouton qu'il a trouvé. Et puis alors...
Puis Gérard Lanvin.
Et alors Gérard Lanvin, qui est un de nos académiciens également. Alors c'est aussi un élève de couturier, nous en retrouvons un. Il a beaucoup travaillé la pierre pour des restaurations de monuments, mais il affectionne particulièrement le plâtre, qu'ils font également pour des bronzes qui sont d'une très très belle qualité, notamment des bronzes fondus par la Fondation Coubertin. Alors il y a des matériaux tout à fait inattendus, qu'on ne va pas retrouver dans les siècles passés, le béton. Michel Charpentier, qui est un très beau et grand sculpteur lui aussi, qui a été professeur aux Beaux-Arts et qui a tout un univers, une humanité pleine de tendresse et pleine d'humour. Donc son chien qui se gratte et qui, par cette attitude, lui fait mettre les deux pattes d'une certaine façon, comme une sorte de triangle. Enfin, vous voyez, donc il y a ce côté très amusé, un regard toujours très, très attendri, mais très humoristique, très ludique sur la vie de tous les jours, que ce soit les êtres humains ou les animaux. Le carton, alors Lisbeth de Lille qui a été une élève de couturier et qui travaille aussi alors le bronze, qui travaille la terre, a expérimenté le carton. Alors, le carton dans son épaisseur, de façon à ce qu'il y ait une rigidité qui est polychromée. Et donc, à distance, on a le sentiment que ça peut être peut-être une pierre polychrome ou bien même du métal polychrome. Alors ça, c'est une sculpture que Lisbeth de Lille a montrée. Et là aussi, on est dans la figure humaine. Ce sont toujours des personnages qui sont dans des décors qui peuvent être des passages ou bien des jardins ou bien une colonnade, c'est-à-dire qu'il y a cette concrétisation dans la sculpture de la relation entre l'espace et la sculpture elle-même. La résine, ça c'est tout à fait nouveau. La résine, Jean Guéra travaille les résines qui sont moins coûteuses que les bronzes et qui permettent d'abord d'être peintes. Et il y a Raymond Masson, qui est un très grand sculpteur d'origine anglaise, qui est à Paris depuis les années 50 et qui, lui, utilise une résine apoxyde, qui est une résine extrêmement rigide et qu'il peut peindre. Ce qui fait que, là, ce que j'ai montré, c'est un bronze, mais Masson peint ses sculptures qui sont des hauts-reliefs. Et alors là, on rejoint aussi une grande tradition qui est celle des sculpteurs des cathédrales, parce qu'on sait très bien que la sculpture du Moyen-Âge était peinte et qu'avec les restants de peinture qui parfois apparaissent ou sont retrouvés derrière des badigeons postérieurs, eh bien là, on sent effectivement qu'il y a ce désir de faire rentrer la peinture autrement dans la sculpture, dans le volume, c'est-à-dire la peinture prend du relief, mais on est quand même dans la sculpture. C'est pas de la peinture, mais c'est peint. Alors, Raymond Masson a des sculptures qui sont dans Paris. Là aussi, visibilité, mais visibilité invisible, j'ai envie de dire. Vous allez à l'église Saint-Eustache et vous avez un grand haut relief de Raymond Masson qui représente le déménagement des Halles au moment où il y a eu ces grands travaux aux Halles. Et Raymond Masson a fait tout un travail. Il travaille beaucoup par thème. Il a fait tout un travail sur justement tous ces métiers, les maraîchers, les bouchers qui partaient. Et alors, on a cette population qui part avec beaucoup de vivacité, des anecdotes visuelles qui sont pleines de saveurs.
Oui, tout à fait retransmises.
Une narration très, très, très vive.
Et qui se raconte tout à fait dans ces sculptures. Lydia Rambourg, la prochaine biennale en 2009 sera-t-elle totalement différente de celle de 2007 ?
Eh bien, elle ne sera pas différente dans la mesure où je continuerai à montrer des sculptures et des sculpteurs.
Vivants, en France.
Vivants, puisque c'est quand même le choix que j'ai fait de montrer, encore une fois, la sculpture vivante. Alors, j'aimerais quand même, parce que nous avons d'immenses sculpteurs qui comptent énormément et malheureusement, qui sont pour l'instant dans un purgatoire parce que pas d'exposition qui leur rend hommage, plus de salons qui permettent aussi de rendre des hommages parce que tous ont participé aux grands salons d'après-guerre, que ce soit les réalités nouvelles, le salon de mai. que ce soit aussi les autres grands salons classiques, comme le Salon d'automne, la Nationale des Beaux-Arts, les Indépendants, bon, qui sont des lieux effectivement d'exposition. Mais je voudrais rendre des hommages à quelques grandes figures de la sculpture. Alors, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais cette Biennale de la sculpture, elle prend un sens et pour moi, elle n'a vraiment, elle fait autorité que parce qu'elle elle montre justement la vitalité de la sculpture. Et ce que je souhaite, c'est que cette deuxième Biennale, à laquelle je pense déjà, soit aussi festive. J'emploie vraiment le mot aussi festif, que ce soit une grande fête de la sculpture et que surtout qu'il y ait un public de plus en plus large, de plus en plus convaincu, de plus en plus enthousiaste à découvrir, à redécouvrir la grande sculpture aujourd'hui au XXIe siècle.
Merci beaucoup Lydia Rambourg et bravo.
Merci à vous.